Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, est-ce que vous êtes au bénéfice de sa bonté? Parce que de croire qu'il y a un Dieu, même les démons le disent. Ils savent même qu'il est bon et qu'il est venu pour délivrer les captifs, qu'il est venu pour guérir les malades. Ils savent tout ça. Mais dans la présence de Jésus, ils tremblent et ils sont à genoux. Sommes-nous au bénéfice de la bonté de Dieu? Expérimentés, encouragés, précieusement entretenus. Parce que cette bonté dépend de la proximité que j'ai avec mon Dieu. C'est vrai ou pas? Amen? Amen. Alors, ce matin, j'avais à cœur de vous partager sur la chaleur. Bon, la météo n'a pas voulu jouer le jeu avec moi. Je voulais vous prêcher et faire augmenter la température en vous parlant de choses qui chauffent, qui nous brûlent. Et puis, vous auriez sué à grandes gouttes et ça m'aurait fait une leçon d'objet, vous voyez? Bon, là, je suis tenté d'aller éteindre les ventilos de devant pour que ceux de devant puissent bien expérimenter la chaleur. Mais bon, j'ai un cœur de berger qui vous aime. Et mon cœur a parlé avant même ma volonté. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que faisons-nous en cas de forte chaleur? Vraie question. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez chaud? Alors, si vous parlez tous en même temps, allez, quelqu'un qui lève la main et qui donne une bonne réponse. On s'hydrate. OK, ça marche. Est-ce que tu peux afficher la... après? On boit de l'eau. OK, c'est bien. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que généralement vous allumez le four pour faire une quiche Lorraine? Il est dans la cuisine, enfin, il y en a qui le font, on les aime quand même. Ah, mais après on mange bien. Donc. Mais imaginez, vous faites un bon plat de tartiflette qui doit cuire 60 minutes, je ne sais pas du tout combien ça met de temps à cuire. Et vous enchaînez avec des pâtisseries et toute l'après-midi vous allez cuisiner. Est-ce que vous faites ça? Je sens qu'on tous, on est d'accord, on boycotte la chaleur, même au niveau alimentaire. Et on a tendance à manger frais. On mange des crudités. Est-ce que tu peux m'afficher, mon ami, la crudité? On mange frais, on essaye de s'hydrater, se mouiller. On est toujours là, une nuit, on avait tellement chaud qu'on s'est mis des draps mouillés sur les jambes pour pouvoir tenir la nuit et s'endormir. On dormait avec des serviettes mouillées. Bon, c'est dire qu'au moins, il a fait chaud. OK, on est tous pareils. Troisième étape, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez tous les chantiers en extérieur et le top, c'est les revêtements. Hein, on est d'accord? Tout le monde aime ça? Non? OK, il y a des gens un peu à la tête. On essaye de diminuer le rythme. Quand on a chaud, généralement, notre corps il nous dit « calme-toi, repose-toi un petit peu ». Hop, on se calme. OK? Donc, on essaye d'avoir des activités douces et avoir du repos. OK? Et dernière chose, normalement, je pense que ça coule de source. Qu'est-ce qu'on ferait qui est en dehors de ces trois choses-là? Alors, ça, c'est lié avec l'eau, le frais, c'est pas la baignade. Qu'est-ce que vous faites en cas de forte chaleur? Vous avez juste oublié un truc essentiel. Il y a des spirituels ici. On est en pratique. C'est bien, je garde pour tout à l'heure. Ezra, tu fais quoi quand il y a du soleil qui est très très fort sur ta tête? Tu mets une casquette, donc tu fais quoi? Tu fais de l'ombre. Eh oui, tu vas à l'ombre. Quand on a chaud, est-ce qu'on se met en plein soleil? Non, on cherche l'ombre. Bon, ça c'était les recommandations du service de la santé, là, du ministère de la santé. Véridique, ces quatre points-là qui sont sortis quand je suis allé chercher sur leur site. Pourquoi je vous parle de forte chaleur? Parce qu'il y a clairement un parallèle entre les chaleurs qu'on peut avoir à la température et peut-être le soleil de l'épreuve. Ce soleil qui vient nous brûler la peau. Ces maladies, ces échecs sentimentaux, ces frustrations, ces désillusions qui viennent nous frapper comme un soleil en plein désert. Et la Bible nous invite à chercher de l'ombre. à chercher la fraîcheur du Seigneur. Je vous invite à un florilège de versets extraordinaires. J'aurais pu en citer plein, mais je me suis arrêté à quatre. Je me suis canalisé. Quatre versets. Le premier dans Ésaïe 4. Au-dessus de tout, la glorieuse présence du Seigneur sera une protection. Elle sera un toit de feuillage pour donner de l'ombre pendant la chaleur du jour et fournir un abri, un refuge contre l'orage et la pluie. Parce que oui, quand il y a des fortes chaleurs, il y a aussi des beaux orages qui viennent contrebalancer. D'ailleurs, on les apprécie, sauf quand ils détruisent tout. Mais le psaume 91 nous dit que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume 36, « Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu le fais boire au torrent de tes délices. » Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Et je termine avec ce psaume 121. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas mal, ni la lune pendant la nuit. J'aimerais ouvrir une série de prédications sur la thématique « Viens sous son ombre ». Ou, on pourrait le dire comme ça, Jésus t'invite à venir sous, il te dit, viens sous mon ombre. Parce que souvent, nous avons l'habitude de serrer les dents dans l'aridité. Mais nous n'avons pas le réflexe immédiat d'aller se réfugier sous son ombre. On pense à s'hydrater peut-être, on pense à ralentir le rythme, on pense à manger frais, mais l'ombre vient en dernier. Chercher l'ombre du Tout-Puissant, c'est là ce auprès de quoi j'aimerais vous amener à vivre au travers de toutes circonstances. Est-ce que vous êtes prêts à ce voyage-là ? Êtes-vous prêts à chercher l'ombre ? Je voudrais chercher avec vous l'ombre du Tout-Puissant. Parce que quand vient l'épreuve, quels vont être nos réflexes ? Premièrement, l'inquiétude. Qu'est-ce qui va arriver encore de plus ? Généralement, on pense à la loi des séries, on dit « il nous arrive un truc », et puis on enchaîne. On manifeste beaucoup de superstitions dans l'épreuve. Vient le doute, la perte d'espoir, la remise en cause des projets d'avenir, l'impuissance et la pire de toutes, la peur. Nous réagissons sous le soleil de l'épreuve de ces manières-là. Mais au travers d'un parcours de deux histoires en parallèle, celle de Lazare et de la fille de Jaïrus, j'aimerais dire que qu'importe l'aridité qui frapperait ta vie aujourd'hui, que ce soit dans la santé, que ce soit auprès d'oppressions spirituelles, que ce soit auprès d'inquiétudes financières, que ce soit auprès de problèmes familiaux, relationnels, sentimentaux avec ton mari, tes enfants t'ont quitté, ils ne te parlent plus, qu'importe l'aridité qui frapperait ton esprit, Dieu t'invite à venir à son ombre. Viens. Je ne suis pas en train de prêcher la fin de l'épreuve instantanée. Je suis en train de vous dire qu'on peut traverser l'aridité sous son ombre. Et ça change tout. Ça change tout. J'aimerais la première des choses dans ce contexte de Lazare et la fille de Jaïrus, juste planter le contexte avant d'aller plus loin. Tous deux, la fille de Jaïrus et Lazare vont être malades. Normalement, on connaît assez bien ces histoires. Et tous deux vont faire appel à Jésus pour la guérison. Toutes ces familles, que ce soit à Béthanie ou à Capernaum, vont être frappées du deuil et de la déception. Tous vont entendre parler Jésus de la même manière et vivre la même résurrection. Je prends deux cas pour vous montrer que ce n'est pas un texte séparé, j'aurais pu en citer d'autres, mais quand Jésus dit « la chose arrive », quand il ordonne, elle existe. Et je ne sais pas sur quelle situation Dieu a besoin de parler ce matin dans ta vie. Mais Dieu va parler ce matin. Alors prête ton oreille, ouvre ton cœur. Dieu veut parler pour ordonner aux éléments de converger pour la résurrection d'une chose que toi tu vois morte, auquel Jésus dit non, ce n'est que le sommeil. On y va ensemble dans ce voyage. La première des choses, quand on est tous frappés par l'épreuve, j'espère au moins que le premier des réflexes, c'est la prière. Des fois, ce n'est pas le premier réflexe. Des fois, on est tellement sonné par l'épreuve. Waouh, on titube, on divague, on est comme en plein désert, on voit un mirage, une source d'eau là-bas. Ah non, je suis en plein désert. Mais Jésus nous invite et voudrait solliciter ton cœur à une prière authentique. Deux sœurs, Marie, Marthe, envoient un message rempli d'urgence et en même temps de confiance. « Seigneur, ton ami est malade. » Peut-être qu'elle joue sur la corde sensible pour faire bouger Jésus. Je ne sais pas. On ne va pas prêter de mauvaises intentions à Marthe et Marie. Mais c'était un fait. Lazare, Marie, Marthe étaient des amis de Jésus. Cette prière authentique, tu dois la faire monter vers Jésus parce qu'il t'aime. Ton ami est malade. Et dans le cas de la vie de Jaïrus, c'est Jaïrus en personne, le chef de la synagogue, qui vient demander à Jésus, « Ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Lui, en plus d'une demande, il offre le mode d'emploi à Jésus. Il croit en les capacités de guérison de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu crois que Jésus peut changer la situation? Est-ce que tu crois que là où tu as vu la maladie, une gangrène s'installer, tu peux invoquer le nom de Jésus, le faire venir sur ta situation et voir la guérison s'accomplir? Amen. Moi, je le crois. Je l'ai tellement vu que je ne peux plus douter. Dieu est capable encore aujourd'hui de guérir. Et alors que je prêche en prononçant des paroles de foi sur ta vie, suscite la foi, garde-la et saisis la guérison pour peut-être ton corps maintenant alors que je te parle. Le point commun entre ces deux situations, c'est qu'elles invitent Jésus à venir dans leurs problèmes. Et c'est là où je t'invite vraiment, au-delà de « est-ce que Jésus va guérir, solutionner ton problème maintenant ?» Est-ce que tu as invité Jésus à venir dans ton problème ? Parce que parfois, le coup est tellement violent par l'épreuve qu'on est tellement sonné qu'on se dit « bon Jésus, ouais, tu connais toute chose, hein ? Ouh là là !» Et puis, on essaye... par nos propres forces, à essayer de raisonner, mais pourquoi ça m'arrive? Alors, ok, donc Dieu, tu fais le schéma, un peu comme Jaïrus. Alors, il viendra, il posera sa main, et ma fille sera guérie. Même si c'est vrai, la première des prières, c'est inviter Jésus dans mes problèmes, à ce qu'il règne pour de vrai. Est-ce que tu sais que tu es aimé de Dieu? Et que tes larmes, Dieu en note chacune des raisons dans son carnet. J'aime ce psaume qui me rappelle cela, que mes larmes, elles ont de l'importance au moins pour quelqu'un. Quand parfois on a, nous messieurs surtout, on a honte de pleurer devant Notre-Dame ou devant n'importe qui et qu'on irait se réfugier pour se cacher, Dieu y voit nos larmes et elles ont de la valeur à ses yeux. Pourquoi? Ah, parce qu'il aime bien avoir des scores à lui, il a pleuré tant de fois aujourd'hui. Non, Dieu ne fait pas des stats. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et il sait combien le soleil peut t'assécher, te rendre cassant, sec, comme cette terre craquelée. Et tu as besoin au moins premièrement d'inviter Jésus dans tes problèmes, parce qu'il t'aime. Une chose est sûre, c'est que tu peux venir à Jésus, parce que tu peux te savoir. Et tu, comme Jaïrus, comme ses amis Marie et Marthe, elles se savent écouter. Elles savent qu'en allant près de Jésus, il y aura une oreille attentive. Est-ce que tu as invité Jésus dans ton problème? Est-ce que tu as conscience qu'il écoute? En plus des raisons de tes larmes, il écoute tes soupirs, tes pincements de cœur. Il sait, il connaît ta souffrance, il sait et il vient, il t'écoute, il est là à tes côtés. Est-ce que tu crois qu'il peut tout? Je mets ce cadre-là parce que tout va dépendre de là. Même si la situation peut se désagréger, même si la situation peut s'empirer à vue humaine. Et même si c'est le cas factuellement dans ces deux histoires, de la maladie vient la mort, et nous croyons au Dieu qui guérit. Mais est-ce que nous croyons au Dieu qui ressuscite les morts? C'est pourtant le même, celui qui est capable de l'un comme de l'autre. Je me pose la question dans cette deuxième étape de mon voyage, en pleine aridité. Est-ce que, comme moi, vous avez déjà dit « Dieu est en retard » ? Non, vous êtes trop spirituel. Il y a que le pasteur qui dit ça. Est-ce qu'on peut se l'avouer les uns aux autres? Est-ce qu'on a déjà dit « Dieu, le temps passe, je suis toujours célibataire, Dieu passe, la maladie, elle a de plus en plus d'emprise. Eh oh Dieu, mon compte en banque, il est toujours dans le négatif. Eh oh Dieu, je trouve toujours pas de travail. Dieu, dépêche-toi !» Il n'y a que moi qui le dis. J'aimerais parler de ce Dieu en retard. Ce Dieu qui nous gêne par son timing. À chaque fois où tu as dit Dieu est en retard, Dieu est en train de faire mûrir la bénédiction. Après, ça dépend. Est-ce que tu veux un vin aigre ou un vin qui a du corps ? Dieu fait mûrir sa bénédiction parce qu'elle n'est jamais en retard. Et Habacuc nous le rappelle, aspire, attends-la, même si elle tarde, la promesse est inscrite et elle arrivera certainement. C'est le certainement de Dieu, c'est pas peut-être le certainement qu'on dit aux enfants, bon certainement je viendrai jouer avec toi, c'est pas celui-là, c'est celui de Dieu qui nous inscrit, qui nous dit c'est acté, c'est inscrit, à telle date la bénédiction viendra. Et pourtant, tout converge pour nous montrer et nous pousser à lever le poing contre Dieu ou lui dire « Mais Seigneur, tu es en retard !» Même notre entourage proche qui était à la maison, dans le cas de Jaïrus. Alors qu'ils sont là autour pour veiller la malade, ils sortent à la rencontre de Jaïrus. Jésus est à côté, lui dit mais ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ? Arrête, ça suffit. Même Jésus ne peut pas. T'as jamais entendu ces bons conseils ? Ça se trouve, t'as besoin de personne pour entendre ces bons conseils. Tu laisses la voix de la chair et de l'ennemi te dire « Arrête, arrête de prier encore, ça ne sert à rien, tu as déjà prié une fois, il a entendu, il ne veut pas exaucer, et ben voilà, débrouille-toi, serre les dents, reste sous le soleil, prends ton coup de soleil. » Est-ce que Dieu agit ainsi ? Est-ce que les hommes agissent ainsi ? Chez Lazare, ce n'est pas mieux. Parce que le retard, autant quand on voit le retard de Jésus dans le cas de Jaïrus, il prend le temps de guérir une autre personne. On se dit, ouais, il est full dans son planning, Jésus. Il a d'autres choses à faire, d'autres personnes à bénir. Toi, tu n'as jamais dit ça. Hein. Oh Dieu, fou, j'ose même pas te demander parce que tu as tellement de travail dans la terre. Comme si Dieu était une personne de chair qui doit se déplacer dans chacune des foyers, dans chacun des foyers, dans chacune des vies. Non, non, Dieu est esprit, hein. Il est là en même temps ici, comme à l'île Jourdain, comme dans toutes les églises. Et même dans les gens, dans les caves, quand ils pleurent, Dieu les entend. Alléluia. Arrête de croire que Dieu est overbooké. Non, Dieu n'est pas en retard. Et même si la voix de la raison et des hommes te dirait « Arrête de déranger le maître », continue d'importuner le maître. Persévère dans la prière, parce que la promesse, elle arrive, la bénédiction arrive, le changement de ta situation est en cours de téléchargement. Et même si tu as l'impression que le débit est en train de s'affaiblir, non, la bande passante n'est pas saturée, Dieu arrive au temps marqué. Du point de vue humain, Dieu est en retard et l'épreuve gagne. Ta fille est morte. Attends, mais Jésus, je t'avais demandé la guérison. Tu n'as jamais demandé quelque chose qui s'est passé à l'inverse ? Dire « Seigneur, viens dans telle situation, changer tel domaine » et puis tu vois la situation s'effondrer, aller de mal en pis. Et plus tu pries, plus ça s'aggrave. Et là, tu te dis « Faut que j'arrête de prier. » Non, pas vous, hein. On est tous pareils. On vit tous sur la même terre. Et le soleil, il est aussi chaud pour tout le monde. Le soleil de l'aridité de l'épreuve, cette sécheresse qui vient s'installer. Chez Lazare, c'est pas mieux, hein. Parce que le retard de Dieu, il est assumé. Oui, je le dis tel quel. Jésus entend, ton ami Lazare est malade, viens. Et il est dit, vous le lisez comme moi, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Jésus n'a pas bougé d'un iota. Il n'a pas fait un pas en direction de Béthanie. Il est là où il avait besoin d'être à l'instant présent. Et là, souvent, nous, quand on prie, on imagine un Jésus fait de chair qui est pareil. Il reste à tel endroit alors qu'il doit venir dans ma Béthanie à moi, là où il y a la maladie, là où il va y avoir la mort. Mais Jésus, sciemment, provoque le retard. Ouh là 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 là. Il va sur une pente glissante, le pasteur. Si Dieu n'est jamais en retard, Dieu agit toujours au bon moment. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc peut-être que Dieu n'a pas encore bougé d'un iota dans ta vie, exprès, pour que tu cries encore plus fort, pour que tu persévères dans la prière, pour que tu abandonnes ce qui doit être abandonné, pour que tu meures à toi-même encore. Dieu n'est pas en retard. Et pourtant, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quel raisonnement logique ! Jésus, si tu étais arrivé plus tôt dans ma vie, si tu avais agi dans tel domaine avant, ben ma situation ne serait pas comme celle-ci. Vous n'avez jamais dit ça non plus au Seigneur. Seigneur, tu es en retard. Le point commun, c'est que dans l'épreuve, notre discernement il est malmené. On ne va pas se le cacher. Quand il y a l'épreuve, ce soleil qui nous sèche, ce soleil qui nous brûle, on est nombriliste, égocentrique, et nous manquons de perspective, celle de Dieu qui voit l'humanité en entier. On ne voit rien d'autre que notre épreuve, on ne voit rien d'autre que notre condition, on ne voit rien d'autre que notre malheur. Seigneur, jusque à quand dormiras-tu ? Comme dira le psalmiste. Notre discernement nous pousse à prendre des raccourcis. Jésus m'a oublié. Jésus est indifférent. Jésus fait des préférences. Ben oui, Jaïrus, il fait venir pour sa fille qui est à l'extrémité. Elle va mourir, elle est dans ses derniers temps. Les médecins ont dit, il ne reste que quelques heures. Et là, la femme, ça fait déjà 12 ans qu'elle est malade, elle n'est plus à 5 minutes près. Jésus ferait-il des préférences ? Je pense que dans la tête de Jaïrus, à un moment, il y a eu ce raisonnement. Elle, on la connaît, ça fait 12 ans qu'elle est malade. Tous les médecins de la ville la connaissent aussi. Jésus, je t'ai dit que ma fille allait mourir. Tu fais des préférences, t'as des chouchous. Vous n'êtes jamais dit ça, vous non plus. Ouais, désolé, je suis très transparent sur ça, parce qu'en fait, faut qu'on enlève les tabous. Dans la prière, on a tant levé le poing contre Dieu, parce que le soleil était chaud et l'épreuve longue. Moi, je crois que si Dieu arrive à l'instant marqué, c'est qu'il a besoin d'éprouver, étirer, purifier notre foi. Il a besoin de l'éprouver pour qu'elle soit de plus en plus pure et qu'elle soit au-delà des circonstances. Et Jésus le dira, il n'est pas en retard. D'ailleurs, il le dira, il préviendra. Jésus va rester 2 jours de plus avant d'aller à Béthanie en disant, mais de toute façon, cette maladie n'est pas pour la mort. Jésus, tu peux m'expliquer ? Parce que là, ça fait 4 jours qu'il est mort, Lazare, quand même. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu sais que ton épreuve n'est pas pour la mort de ta foi, mais pour la gloire de Dieu ? Le soleil qui frappe ta vie, qui nous frappe tous, n'est pas là pour t'assécher, mais pour te donner une faim et une soif d'aller dans l'oasis, d'aller venir dans la présence de Dieu, chercher cette pluie qui vient des cieux, cette pluie de l'arrière-saison, cette source ruisselante du rocher. C'est cette soif-là. L'épreuve n'est pas là pour tuer ta foi. D'ailleurs, Dieu nous fait des promesses. L'épreuve ne sera pas au-delà de nos forces. Mais Seigneur, ça fait longtemps que j'ai plus les forces. Tu le dis, ça aussi. Alors, j'aimerais, dans ce voyage qui est à mi-étape, regarder à Jésus dans l'épreuve. Parce qu'au final, c'est lui le maître. C'est lui qui est maître des circonstances et qui est capable, même face à un mort, de dire « il dort ». Je crois qu'on a besoin de regarder comment Jésus réagit dans l'épreuve. Ça va nous enseigner. Et à la fin, on priera tous, « Seigneur, je veux réagir comme toi dans l'épreuve. Seigneur, j'ai tant besoin de réagir comme toi dans l'épreuve. » Regardons ensemble, toujours dans cette diapo d'après, s'il te plaît, Antonin, pour la fille de Jaïrus. Alors que l'inquiétude est là, alors que l'impatience, alors que tout ce que j'ai dit a été vrai dans le cœur de Jaïrus, comme l'a été dans le cœur de Marthe et Marie, Jésus va lui dire, n'aie pas peur, crois seulement. Est-ce que dans ton épreuve, tu arrives à avoir la foi seulement et pas tout le reste qui accompagne l'épreuve ? Est-ce que tu arrives à laisser émerger, surnager la foi seulement ? Est-ce que ton seul appui dans l'épreuve, c'est la foi seulement ? Jésus voudrait te dire que là où toi tu vois la mort, Jésus dit non, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Elle dort. Jésus est pourtant dans la maison, là où les larmes ont commencé à couler, là où les pleureuses sont là, certainement les joueurs de flûte sont là, là où les membres de la famille, les gens de la synagogue sont venus, les pharisiens sont venus, et c'est certainement eux qui ont dit « mais n'importune pas ce Jésus-là, ah, elle est morte ». Jésus est pourtant là, il a un regard différent sur la situation. Est-ce que tu es prêt à laisser le divin opticien te confier ses lunettes pour que tu puisses voir comment Jésus voit? Et que là, toi, tu vois la mort. Jésus n'est pas dans le déni, hein, soyez rassurés. Il voyait bien qu'elle était morte. Mais il avait un regard d'accomplissement de sa prière avant même de l'avoir prononcé sur la vie de la petite fille. Avant même de dire, bon, je sais, tu pleures, elle est morte, je comprends la douleur. Jésus n'est pas là, il est déjà dans, j'ai restauré déjà la jeune fille, cette jeune fille qui sera la joie de la maison du papa et de la maman. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Pour Lazare, Jésus dira à ses disciples, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller. Est-ce que dans l'épreuve, tu peux dire à ton voisin ou même à toi-même, Jésus vient pour réveiller le mort. Ce que toi tu as dit, la maladie, c'est mon identité. Là où tu as dit le malheur, la violence dans mon foyer, c'est l'identité de mon foyer. Jésus dit, arrête, arrête, je viens. Et ce qui était mort, reprend vie. Prenez enseignement de tout l'Ancien Testament. Là où tout était mort, là où nous, à la place de Dieu, on aurait éradiqué Israël 17 fois, si ce n'est pas 100 fois, à chaque fois, Dieu a dit, je garderai patience. Il a vu et a parlé de réveil alors qu'ils étaient morts spirituellement. Dieu veut parler d'un réveil sur son Église. Dieu veut parler d'un réveil sur ta vie. Là où toi, tu te sens sec à cause de l'aridité du soleil qui persiste. Même, tu as l'impression qu'il se rapproche de toi et te poursuit. Jésus dit non. Là où tu vois la mort, Jésus dit, Lazare, mon ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller. Jésus regarde ton épreuve différemment. Jésus parle de ton épreuve différemment. Et si toi, à ton tour, tu regardais ton épreuve différemment et tu parlais différemment de ton épreuve, à force de dire c'est dur, c'est dur, c'est dur, qu'est-ce que vous croyez qu'on vit ? C'est dur. Et je ne suis pas en train de parler de développement personnel avec, voilà, si tu appelles les choses, elles vont arriver sur ta vie. Je ne suis pas en train de parler de ces choses-là. Je parle d'employer le langage divin. De parler comme Dieu parle sur les situations. Et là où nous avons dit c'est mort, apprendre à dire non, Seigneur, tu es capable de réveiller. Non, à tes yeux, une chose n'est jamais morte, elle est seulement endormie. Oh Seigneur, je veux apprendre à voir les situations. Si vous saviez dans les visites, il y a des situations, je me dis Seigneur, humainement c'est mort. Et la situation ne changera pas. Et le Saint-Esprit me pique et me rappelle et m'humilie en me disant « Mais toi, tu dis ça, mais moi, je dis autre chose. » Est-ce qu'on va apprendre ensemble à laisser Dieu parler, nous donner ses lunettes et nous donner sa langue pour parler comme lui parle ? Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Voilà ce que Jésus a dit sur Lazare, alors que ça faisait 4 jours qu'il était mort. Ça fait combien de temps t'attends ? Et là, tu dis, mais ressusciter un mort instant, à l'heure même, ok. Le lendemain, ok. 2 jours, pourquoi pas ? 3e jour, tu l'as fait toi-même, ok. 4 jours. Ah, on n'est pas dans les chambres funéraires refroidies. Et il le savait très bien. Même si une caverne, c'est plus frais que l'extérieur. Jésus, t'es sûr ? Il sent déjà. Autour de vous, quand tu adopteras à chaque fois que tu adopteras le langage et le regard de la foi, tu auras toujours les rabat-joie, les anti-foi, les tueurs de foi professionnels. Il y en a, ils ont passé le diplôme, je vous le dis. Ils sont tellement pragmatiques et réalistes et sages à leurs propres yeux qu'ils tuent toute foi naissante. Malheureusement, dans l'Église aussi. Et ce n'est pas que des amis de l'extérieur qui vont vous tuer dans la foi. Le pire, c'est quand ça vient entre chrétiens. Vous placez votre foi, vous traversez l'épreuve. Dieu m'a parlé, il est venu. Hein. Ouais, enfin, il t'a parlé. Hein ? Le relativisme, ça vous parle de quelqu'un ? Moi, j'en connais un dans le jardin, sous la forme d'un serpent. Dieu a-t-il réellement dit ? Ce sont les armes du diable. À chaque fois que nous relativiserons, à chaque fois que nous raisonnerons, à chaque fois que nous serons sages à nos propres yeux, nous jouerons le jeu du diable. Le langage de Jésus, là où toi tu dis mort, il dit sommeil. Là où tu parles de deuil, il parle de la vie. Voilà ce que Dieu dit sur ta vie. Alors oui, j'ai parlé des rabat-joie professionnels, 2 étoiles, classés voilà, S, ils sont voilà, des supra-tueurs dans la vie de Jaïrus, dans la maison de Lazare. Ils étaient là aussi au rendez-vous. Et quand Jésus arrive pour dire « La petite fille n'est pas morte, elle dort », quelle est la réaction ? La moquerie, l'incrédulité, la sagesse. Je les mets en même temps. Parce que le réalisme humain amène à un rite de deuil. Elle est à peine morte, ils ont couru dans les rues pour aller chercher les pleureuses. Ils ont couru dans l'autre rue pour venir chercher les joueurs de flûte. Et puis ils sont allés à la Sina, venez vite, elle est morte. Il faut vite enclencher le principe du deuil, vite aller passer à autre chose. Il faut vite, vite, vite. Mais Jaïrus a eu une autre lecture. Il est allé chercher Jésus. Et même si on se moque de toi, dis-toi que si Jésus marche avec toi, les moqueurs, ils peuvent être sans nombre en face. Ce que Jésus dit a plus d'importance. Chez Lazare, c'est pareil. Vous vous rappelez de Marthe et Marie. Si tu avais été là. Et vous savez, les chroniqueurs du match de foot, hein, ils sont là dans leur loge. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne meure point ? Oh là là, ces mêmes qui diront crucifie-le, ces mêmes qui diront tuer de Belzébuth, ces mêmes-là se mettent à philosopher. Celui qui guérit les malades, il ne pouvait pas venir pour son ami. Ce relativisme tue nos églises et tue notre foi. Nous avons besoin de croire parce que Jésus a parlé. Et ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Quand il dit sur les ossements desséchés, qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'épreuve de la foi. D'abord, les os se rapprochent. Puis après, les tissus se forment. Et la finalité, c'est quoi ? Une armée sans nombre marche au pas de l'Éternel des armées. Je ne sais pas ce qui est mort dans ton foyer, mais dis-toi que ce qui est mort va servir la gloire de Dieu. Et que ta famille, tu pourras dire bientôt, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Là où tu as vu des enfants révoltés, s'opposant à ta foi, se moquant de toi en réunion de famille, Dieu dit, ça sera mon armée. Est-ce que tu crois que tu es en bénédiction pour ton foyer ? Persévère, continue. Sous l'ombre de Jésus, on peut traverser l'incompréhension du monde. Sous l'ombre de Jésus, on peut même affronter nos propres doutes. Sous l'ombre de Jésus, le monde se moquera de notre espérance. Mais vous avez vu la réaction de Jésus ? Il a pour mandat l'amour et son autorité. Jésus, il réagit de deux manières. Il aime et ça lui permet d'aller plus loin. Je crois que tu as oublié l'aspect 4 hein, tout à l'heure, mais on va passer directement à l'aspect 5. Jésus est empreint d'amour et d'autorité. Et là où il y a l'incrédulité, il les met à la porte. Là où il y a les moqueurs, il les met à la porte. Il garde les parents endeuillés. Il garde ses disciples qui ont foi en lui et il les fait rentrer dans la maison. Quand Jésus parle, alors qu'il est face au tombeau de Lazare, depuis 4 jours, il sent déjà, il est ému de compassion. Jésus pleura, le verset le plus court de toute la Bible nous parle de l'émotion de Jésus face à l'épreuve, face à ton épreuve. Jésus pleure sur ton épreuve. Jésus pleura. Mais ne voyez pas les pleurs de Jésus comme de la faiblesse. C'est sa toute-puissance qui va s'actionner, puisqu'à ce moment, l'instant d'après, il va dire « ôtez la pierre ». Jésus a toute autorité. Il fera toujours, par son mandat, il t'amènera toujours plus loin. Sa compassion et sa puissance se manifestent dans sa parole. Il ordonne et la chose arrive. Elle s'exécute. Elle n'est pas en retard. Mais Jésus à l'honnêteté, de retrancher ce qui amène à l'incrédulité. Qu'est-ce qui, dans ta vie, est comme une pierre face à la résurrection ? Qu'est-ce qui, dans ta vie, serait dans ta vie comme des gens qui se moquent, des gens qui te découragent ? Un moment, il faut se le dire, dans l'épreuve, on a besoin de s'entourer de personnes sûres. Dans l'épreuve, on a besoin de retrancher ce qui nous tire vers le bas. On a besoin de sortir la serpette et couper les lianes de l'incrédulité. On a besoin, à un moment, de dire, bon, et toi, sors de ma maison. Il y a des esprits de découragement. Il y a des gens, ils sont envoyés comme des anges de Satan dans les maisons pour détruire la foi. Ils doivent sortir de nos maisons. Ils n'ont rien à faire dans nos maisons. Ils n'ont rien à conseiller ni arbitrer. Jésus seul doit parler. J'étais toujours sur le 5. Jésus ayant mis le deuxième 5, il y a deux pages au 5. Non. Il y a deux pages au 5, merci. Ayant mis tout le monde dehors, il prit avec lui. Et ça, c'est la compassion et l'autorité de Jésus. Il met tout le monde dehors, tous ceux qui ne vont pas être dans l'équation de la foi, et il te prendra, toi, éprouvé, apeuré, détruit par les moqueurs, il te prendra avec lui pour t'amener voir la résurrection. Parce qu'il suffit, et là tu peux mettre le 6 s'il te plaît, il suffit d'une parole de Jésus, une seule parole. Jeune fille, lève-toi. Lazare, sors. Est-ce qu'il a fait une croisade de prière pendant des semaines ? Non. Une parole de Jésus au bon moment suffit pour ressusciter le mort. Cette jeune fille, il a dit, lève-toi, comme on réveille quelqu'un du sommeil. Il n'est pas venu ressusciter un mort, il est venu relever quelqu'un qui dormait. Et la dimension de foi, elle est beaucoup plus simple. Avons-nous ce regard-là sur les épreuves ? Là où tu as dit cancer et phase terminale, peut-être Jésus parle d'une migraine. Il voit une migraine qui pourrait passer juste en un instant. Là où toi tu vois les principes médicaux, là où toi tu vois les principes humains, Dieu il a une autre logique et il a sa méthode pour amener la résurrection. Sous la fraîcheur de son ombre, celle qui nous est communiquée, celle de sa parole, résonne sa voix et ça change tout. Et j'arrive à ma conclusion. Si tu peux m'afficher la dernière diapo. Ce que Dieu te demande, c'est de croire. Et de croire seulement. Deuxièmement, parce que croire seulement, c'est difficile. Il te demande de retrancher. Retrancher tout ce qui va te décourager. Et t'entourer des bonnes personnes. Et la troisième chose, Dieu te demande d'obéir. J'aime particulièrement cette mise en scène de la résurrection de la petite fille de Jaïrus dans la série The Chosen. Parce qu'il fait sortir tout le monde. Et là, alors qu'il s'approche du corps de la jeune fille morte, la mère elle-même dit « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jésus ?» La mère elle-même est pleine de doutes en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de lever le linceul. Mais il est en train de faire un sacrilège sur le corps mort. Il est en train de toucher un mort, lui qui est un rabbi. Que fait-il ? Mais Jésus n'est pas en train de toucher un corps mort. Il est en train de réveiller la jeune fille du sommeil. » Un moment, obéir, c'est juste s'exécuter face à la parole de Jésus. Et je ne sais pas ce que Dieu a fait résonner dans ton cœur là ce matin, mais à un moment donné, arrête de réfléchir, obéis. Obéis dans ce que Dieu t'a demandé de ressusciter. Obéis dans ce que Dieu veut te faire vivre. Obéis, obéis. Croire, retrancher et obéir. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière tous ensemble, en laissant cette diapo affichée s'il te plaît Antonin. Qu'on puisse réaliser que Dieu me demande de croire seulement. Jésus dira à Marthe et à Marie, « Le crois-tu ? » Il te pose la question, « Crois-tu que tout ce qui vient d'être dit est vrai ? Que tout ce que Dieu fait est encore valable en 2025, en plein été, là où on va avoir encore chaud cet été ? Pense à l'aridité de ton épreuve, pense à l'aridité de ta réalité. Peut-être tu n'es pas en proie à l'épreuve, mais à une sécheresse globalisée. Ça fait longtemps que le Saint-Esprit n'a pas fait battre ton cœur. Dieu dit, je vais réveiller mon peuple. Dieu dit, je vais réveiller mon peuple et me faire une armée. Oh Jésus, la résurrection appartient à Jésus. Mais il nous demande d'être comme ce bon samaritain. Enfin, en tout cas, lui est le bon samaritain. Il nous demande d'être comme l'aubergiste. Juste pour rappeler quelques lignes, dans la parabole du bon samaritain, un homme est à terre. La religion, les bons penseurs changent de trottoir, mais le bon samaritain s'arrête. J'aimerais qu'on ait tous nos yeux fermés pour méditer sur cette parabole. Et alors que le bon samaritain s'arrête et pratique les premiers secours, il ressuscite cet homme. Il le relève d'entre une mort fatidique. Il panse ses plaies et apaise sa douleur. Mais le bon samaritain ne garde pas le blessé sur sa monture. Il l'amène jusqu'à l'auberge. là où il ordonne de prendre soin de lui. Peut-être que tu n'as pas la force d'aller vers Jésus, mais Jésus t'amène auprès de tes frères et de tes sœurs. Et ce matin, peut-être tu n'as pas été concerné par l'épreuve, l'aridité, mais Dieu voudrait t'ordonner de prendre soin des blessés, prendre soin de ceux qui ont besoin de convalescence. Dieu veut t'ordonner de prendre soin, non pas sur tes propres forces, parce que le bon samaritain dira, mais prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé de plus, je te le rembourserai. Jésus a tout pourvu à l'Église pour prendre soin les uns des autres. Je voulais juste amener cette conclusion pour qu'on puisse prier ensemble, pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu se manifester. Et parce qu'il a été question de paroles de foi, j'aimerais ordonner le miracle sur ta vie maintenant. Peut-être que c'est maintenant que Dieu va ressusciter un mort, relever quelqu'un du sommeil de la mort. J'aimerais t'inviter, toi qui te sens concerné, toi qui es peut-être malade, toi qui es là, en proie à la sécheresse, à l'inquiétude, le doute, à venir à Jésus. Jésus est avec toi, il veut te faire venir sur le devant pour qu'on puisse prier pour toi. Cet appel, il est simple. C'est pour ceux qui ont besoin d'entendre parler Jésus sur leur vie. Peut-être tu viens comme Jaïrus, tu es encore plein d'inquiétudes, plein de doutes. Tu es peut-être comme Marthe et Marie, tu trouves que le temps est long et Jésus n'est toujours pas là. Viens sur le devant. Le conseil spirituel et moi-même, on va prier ensemble. Et on va vivre ensemble un temps de grâce où par les dons spirituels, Dieu va parler. Ou alors dans la prière, alors qu'on priera, Dieu va libérer une parole de vie, une parole de foi. Et alors ton corps qui était meurtri va être guéri. Si tu crois que Dieu peut faire, viens sur le devant maintenant. Viens sur le devant, simplement. On va juste prier ensemble. Dieu va poser sa main. Comme il est venu saisir la main de cet enfant, il vient poser sa main sur ta vie maintenant. Oh Jésus, j'invite le conseil spirituel à venir sur le devant, à se mettre en ligne. Et tous ceux qui ont besoin de recevoir la prière, viennent. Parce que Dieu a posé sa main sur la jeune fille de Jaïrus. Dieu a ordonné à ce que Lazare sorte. Et il a donné à des hommes d'enlever les linceuls. Si le conseil spirituel peut s'étaler là, le long, tout le long. Alléluia, Jésus. Sora baba baba ba Yesu tolo maniata kadia lelelelelelelelele sora baba ba Yesada yelelelele. Alléluia, alléluia, Jésus.